Chapitre 5. De son côté, Sylvie Monin, elle aussi accompagnée d'un gardien de la paix pour l'enregistrement des dépositions, s'était rendue à l'imprimerie Tillier, située à Hellem, une ancienne commune désormais rattachée à Lille. La façade de l'entreprise, au milieu d'une rue, enserrée parmi les maisons particulières, paraissait vétuste et ne payait pas de mine, mais, une fois passée la grille d'entrée, Monin fut surpris par la modernité et l'ergonomie des ateliers qu'elle traversa et des bureaux, notamment celui de Georgette Lecoeur, où une secrétaire la conduisit. Dans cette pièce très claire du premier étage, où de larges baies vitrées donnaient sur une cour intérieure agrémentée de grands tilleuls, et où l'air conditionné procurait une agréable sensation de fraîcheur après la moiteur du dehors, Monin se trouva devant une femme proche de la cinquantaine, grande, sèche, avec un nez trop long et des yeux fureteurs qui soupesaient la visiteuse. Elle estima que, face à cette femme d'ordre, décliner son titre ne serait pas forcément une mauvaise chose. C'est pourquoi elle lui servit du « capitaine Monin », chargé de lui poser quelques questions à elle ainsi qu'à son patron. Georgette Lecoeur dut être favorablement impressionnée car, d'une voix enjôleuse, peu en rapport avec son physique ingrat, elle se proposa de répondre d'abord. Cela laisserait à M. Tillier le temps de terminer un entretien avec un client. Monin nota qu'elle disait « Monsieur Tillier » comme d'autres disent « Dieu le Père ». Elle décida de commencer par un billet. « Mademoiselle Lecoeur, depuis combien de temps travaillez-vous à l'imprimerie Tillier ?» Celle-ci fit mine de réfléchir. Visiblement, elle buvait du petit lait. « Je suis entré dans cette maison en novembre 1972, il y a donc 29 ans. J'ai d'abord travaillé au service comptabilité, puis en 1983, M. Gaston m'a appelé à son secrétariat. Elle aurait dit, m'a demandé en mariage, que son visage n'eût pas exprimé plus de fierté. Elle poursuivit. En 1981, je suis devenu attaché de direction. Enfin, en 1991, lorsque M. Tillier a succédé à son père, il m'a prise comme assistante. Je suis en fait responsable de tout le personnel. Son visage rayonnait. Monin estima qu'elle pouvait aborder des questions intéressantes. Vous étiez, je crois, à la réception d'hier. Effectivement. Monsieur Tillier m'avait demandé de m'occuper de l'organisation du buffet. En accord avec Madame Tillier, j'ai contacté un traiteur et réglé des détails pratiques. J'ai supervisé aussi la réalisation des badges pour les invités. Elle parlait d'une voix rapide et nette, enfin m'habituée à traiter ses problèmes de gestion. À ce propos, est-il exact que ces badges ont été établis à partir d'une liste que vous avez composée, Monsieur Tillier et vous? Tout à fait. Nous avons essayé d'évaluer le nombre d'invités, ne serait-ce que pour pouvoir ajuster la commande de petits fours auprès du traiteur. Malheureusement, Madame Tillier, Barbara et même Monsieur ont rajouté des noms à la dernière minute, si bien que, durant la réception, j'ai craint que nous ne soyons juste en milliardises et boissons. Avez-vous encore cette liste? Bien sûr. Attendez une seconde. Elle se leva, alla à une armoire dont un des bâtons était ouvert, prit sans hésiter une chemise d'où elle tira, après y avoir fouillé quelques instants, trois feuilles 21-29-7 agrafées. « Voici, dit-elle en les tendant à Monin. Les noms au stylo au bout sont ceux qui ont été rajoutés. » La liste ne comportait que des noms et prénoms, dactylographiés. Effectivement, à partir du milieu de la troisième feuille, Monin remarqua une quinzaine de noms inscrits visiblement à la hâte, certains presque illisibles, d'autres sans prénom, avec des stylos de différentes couleurs. Elle eut beau éplucher avec soin les trois feuillets, elle ne vit pas de Claude Gauvin. On a retrouvé auprès de la victime un badge au nom de Claude Gauvin. Ce nom vous dit-il quelque chose? Je ne connais aucune femme qui s'appelle ainsi. Monin nota que Mademoiselle Lecoeur pensait spontanément à une femme plutôt qu'à un homme. Comment est-il possible qu'il y ait un badge à ce nom alors qu'il ne figure pas sur la liste des invités? Georgette Lecoeur ne fut pas décontenancée par la question. Il se peut que certaines personnes aient été invitées in extremis et n'aient plus été rajoutées à la liste. Je dois dire que Mademoiselle Roussel était coutumière de ce genre de pratique. Combien de fois Monsieur et Madame Tillier se sont-ils lamentés de ce qu'elle ramena, lors de fêtes ou de réceptions, des amis ou connaissances à elle sans prévenir? Peut-être s'agit-il aussi d'une pique-assiette comme on en voit dans toutes les réceptions. Cette femme serait entrée au culot et, arrivée devant les ouvriers, a fait inscrire son nom sur le badge. De toute façon, ces derniers, débordés par l'affluence, ont renoncé très vite à contrôler les identités avec la liste. Monin ne croyait guère à cette dernière explication. L'état d'esprit de ces parasites qui traînent près des buffets de mariage lui semblait trop éloigné de celui d'un meurtrier. Par contre, l'hypothèse d'un ou d'une Claude Gauvin invité par Barbara lui semblait plausible, et en tout cas cadrée avec l'hypothèse la plus probable. Gauvin devait guetter Barbara, et donc la connaître pour s'introduire sur ses talons dans le salon. Quoi qu'il en soit, conclut Mona en soupirant, si c'est Barbara qui l'a invité, elle n'est plus là pour le dire et nous ne sommes pas plus avancés. Elle se rendit soudain compte que Georgette Lecœur, pendant qu'elle réfléchissait, la scrutait d'un air inquisiteur. À quoi pense-t-elle? Se dit Monin. Juge-t-elle que je suis trop jeune pour être capitaine de police, que ce n'est pas la place d'une femme? Durant les enquêtes, elle devinait souvent ces réflexions dans le regard de ses interlocuteurs, témoins ou suspects. Au début, elle s'était sentie gênée, et il lui était arrivé de rougir. Et puis, petit à petit, elle avait appris à assumer son statut et désormais s'amusait du trouble qu'elle provoquait chez ceux et celles qui lui faisaient face. Parlez-moi de Mademoiselle Roussel. Vous la connaissiez? Mademoiselle Lecœur se rembrunit. Je n'étais pas une de ses intimes, comme vous devez vous en douter. Outre quelques rencontres lors de réceptions privées auxquelles M. Tillier a fait l'honneur de me convier, j'ai eu affaire à elle quand elle a travaillé ici, à l'imprimerie. C'était il y a longtemps? Cela remonte à 2 ans. M. Tillier m'a demandé, en tant que chargé de la gestion du personnel, si nous ne pouvions pas l'engager comme secrétaire. Je lui ai fait remarquer que tous les postes étaient pourvus, mais il a insisté. Il était gêné de la situation et moi aussi. Finalement, nous l'avons embauché en CDD. Malheureusement, nous avons dû nous en séparer. Mona hasarda. Il ne devait pas y avoir vraiment de travail pour elle si tous les postes étaient occupés. Ce n'est pas cela. Georgette Lecœur avait prononcé cette phrase d'une voix tranchante. Mais maintenant, elle semblait hésiter à poursuivre. Il y eut un silence prolongé, puis elle lâcha d'une traite. Il se trouve qu'elle arrivait souvent en retard. En outre, son travail était loin d'être satisfaisant. Ainsi, il lui est arrivé fréquemment de mélanger les rendez-vous. Très vite, ça a jasé dans les bureaux. À la fin, j'ai dû avertir M. Tillier, et Mademoiselle Roussel nous a quittés. Monin décida de mettre les pieds dans le plat. En somme, elle manquait de sérieux et était incompétente. Georgette Lecœur se tortilla sur sa chaise. « Ce que vous dites est trop brutal. Pour le travail, elle essayait de faire de son mieux. Quant au retard, elle s'excusait à chaque fois et promettait d'être à l'heure à l'avenir. » Elle rougit en regardant Monin, comme si cet aveu lui coûtait. Elle accumulait les erreurs, mais elle était désarmante. Au fond, on ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Mais elle n'était pas faite pour ce métier. À la réflexion, poursuivit-elle avec un sourire désabusé, je me demande si elle était faite pour travailler. De nouveau un silence. Mademoiselle Lecœur semblait perdue dans ses pensées. L'avez-vous vue lors de la réception? De relança Monin. Son interlocutrice eut l'air outré. J'étais bien trop occupé avec quelques gros clients de l'imprimerie. De plus, comme je vous l'ai dit, j'avais l'œil sur le service. Je l'ai simplement salué de loin au début. Ah si, reprit-elle, comme si l'information lui revenait brusquement en mémoire. À un moment, j'ai entendu quelqu'un parler très fort, crier presque. Comme d'autres, je me suis retourné, et j'ai vu Mademoiselle Roussel qui avait une conversation animée avec un homme. Qui était-ce? Je ne le connaissais pas. Du reste, il ne portait pas de badge. Pouvez-vous le décrire? Insista Monin. Elle rougit à nouveau. Voyons. Il était grand, les cheveux bruns et frisés, le teint hâlé. Vraiment, poursuivit-elle avec un petit rire de gorge, je ne peux vous en dire plus. Vous savez, je l'ai à peine regardé. Suffisamment, pensa Monin, pour voir qu'il ne portait pas de badge. Elle reprit. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de particulier au moment du drame? Comme beaucoup, j'ai été alerté par les cris de Mademoiselle Fougaille. Elle crut bon de préciser pour Monin. Je l'avais déjà vue. Elle avait accompagné Mademoiselle Roussel quand celle-ci s'était présentée pour la première fois à l'imprimerie. Qu'avez-vous fait alors? Quelques personnes se sont précipitées dans le hall. J'ai cru pour ma part qu'il ne s'agissait que d'une invitée qui s'était renversée du café sur elle ou qui s'était tordue la cheville. Bref, rien de grave. Je n'ai pas bougé. Où étiez-vous à ce moment-là? Je me trouvais sur le devant de la maison où je rangeais des badges non utilisés. Sa voix était mal assurée. Mona ne lui demanda pas si quelqu'un pouvait l'attester, mais elle se promit de le vérifier auprès des serveurs du buffet de devant. Quelques coups discrets se firent entendre à la porte du bureau. « Oui !» dit Mademoiselle Lecœur d'une voix excédée. Mona vit la porte s'entr'ouvrir, une tête de femme s'y encadrer, ainsi qu'une main qui dessina dans l'air des arabesques bizarres. « Ah !» dit Georgette Lecœur qui semblait déchiffrer le langage des signes. Monsieur Tillier en a terminé avec son client. Il peut vous recevoir. Jocelyne va vous conduire à son bureau. » Elle semblait maintenant très pressée de conclure l'entretien. Monin la remercia pour sa collaboration et, accompagné du gardien de la paix, suivit la dénommée Jocelyne, une grosse secrétaire blonde à lunettes, à travers l'usine. Ils s'engagèrent dans un long couloir, bordé sur un des côtés par un atelier où des baies vitrées à mi-hauteur permettaient de voir des ouvriers en bleu de travail près d'énormes rotatives dont le son ne parvenait à Monin que fort assourdi. Enfin, ils arrivèrent devant une porte matelassée que la secrétaire ouvrit. Derrière se trouvait un sas assez vaste qu'on avait transformé en antichambre en y installant deux chaises et une table basse garnie de quelques magazines. « Monsieur Tillier est à vous dans un instant. » Sur ces mots prononcés d'une voix toute professionnelle, Jocelyne se retira, les laissant planter là, un peu décontenancés. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Soudain, la porte en verre dépolie du bureau même s'ouvrit et Gentilier les invita cordialement à entrer. Bizarrement, le bureau du patron était plus exigu que celui de sa collaboratrice. Monin fut surpris par son dépouillement extrême. Aucune photo personnelle sur le grand plateau de chêne noir qui en occupait presque toute la surface, aucun tableau, aucune affiche sur les murs d'un blanc écru. Une fenêtre sur un des côtés devait donner sur la rue, mais un épais voilage permettait à peine de deviner la façade des maisons d'en face. On n'entendait aucun bruit provenant de l'extérieur, sans doute à cause d'un double ou triple vitrage. Si bien que Monin, qui avait une tendance à la claustrophobie, se sentit rapidement oppressé. Pour dissiper son malaise, elle reporta son attention sur Tillier. Celui-ci, un homme habitué à recevoir de nombreux hôtes d'importance, affichait un sourire engageant. Néanmoins, Monin sentait derrière la contenance professionnelle un homme meurtri, tant dans le regard éteint que dans la voix détimbrée. À peine les présentations faites, ce fut lui qui prit l'initiative. « Ce qui s'est passé hier soir est incompréhensible. »« Justement, monsieur Tillier, » dit Monin doucement, « nous sommes là pour essayer de comprendre. »« J'y ai réfléchi toute la nuit. Je ne vois pas d'explication au meurtre de Barbara. » Et pourtant, il y en a nécessairement une. Non, dit-il en secouant la tête. Non, cela ne peut être qu'une erreur, ou alors c'est l'œuvre d'un fou. Je ne vois que cela. Il fixait Monin d'un regard implorant, comme s'il quêtait une approbation. Vous ne connaissez personne qui aurait pu lui en vouloir? Lui en vouloir, reprit-il en chargeant les mots d'une ironie amère. On voit que vous ne la connaissiez pas. C'était une fille épatante. On ne pouvait que l'aimer. Il se tut, tout rêveur. Pourtant, Mademoiselle Lecœur vient de me dire qu'elle et de nombreux invités l'ont entendu se disputer avec un homme durant la réception. Il revint à la réalité. Sa voix prit un ton agacé. Oui, je vois ce à quoi elle fait illusion. C'est vrai, mais ce n'est qu'une broutille. Monin insista. De quoi s'agissait-il? Il balaya l'air du bras. D'un individu qui ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Puis, comme Monin attendait, il poursuivit après avoir hésité. Il s'appelle Georges Callot. Il dirige une agence de publicité. C'est un bellâtre, un bon à rien. Mais ce n'est pas un assassin. Après un silence, il ajouta avec une moue de mépris. Il n'en aurait pas le cran. Cette affirmation n'engage que son auteur, pensa Monin, pour qui il y avait là une piste à suivre. On a retrouvé près de Barbara un badge au nom de Claude Gauvin. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle ainsi? Votre collègue m'a déjà posé la question hier soir. Sur le coup, ce nom ne m'évoquait rien. Mais j'ai réfléchi aussi à cela cette nuit, quand je n'arrivais pas à dormir. En fait, j'ai déjà entendu ce nom une fois. Monin tendit l'oreille. Qui l'avait prononcé? Barbara elle-même. C'était la semaine dernière. Je discutais avec elle dans le salon avant de le souper, quand le téléphone a sonné. Barbara a décroché. Elle n'a presque rien dit, sauf de temps en temps. Quoi? D'un air agacé. À un moment, elle a crié. Vous êtes fou! L'autre a encore dit quelque chose et elle a raccroché. Comme je la voyais énervée, je lui ai demandé de quoi elle s'agissait. Elle m'a regardé bizarrement, semblant hésiter à se confier. J'ai insisté. Alors elle m'a dit que c'était sans doute une erreur ou une plaisanterie, car la personne déguisait sa voix. Visiblement, elle ne voulait pas en parler davantage. Mais j'étais intrigué, j'ai multiplié les questions. Qui parlait? Avait-elle reconnu la voix? Était-ce celle d'un homme ou d'une femme? Qu'avait dit cette personne? Brusquement, elle a éclaté de rire. D'un rire un peu forcé, elle m'a dit... C'est Claude Gauvin, voilà tout ce que je sais. Le reste ne mérite pas qu'on en parle. Elle a prononcé ces derniers mots assez sèchement, si bien que je n'ai plus osé revenir sur le sujet. Nous avons repris notre conversation initiale. Moi-même, j'en suis oublié cet incident, que votre question m'a remis en mémoire. Monsieur Tillier, êtes-vous sûr du nom prononcé par Barbara? Oui, tout à fait. Elle a dit distinctement Claude Gauvin. Combien de temps a duré l'appel? Tilly réfléchit un moment. C'était très court, une minute ou deux tout au plus. Ça donnait vraiment l'impression de quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Pouvez-vous dater précisément cet appel? Il fronça les sourcils. Je pense que ce devait être mardi 24 ou mercredi 25, aux alentours de 19h30. Cette semaine-là, je ne suis rentré que vers 21h les autres jours. Merci, monsieur Tillier. Ce devrait être suffisant pour que nous puissions retrouver l'appel et voir d'où il provenait. Mona acheva sa phrase en pensée. Si du moins, il a vraiment eu lieu. Elle reprit. Mademoiselle Lecœur m'a dit que mademoiselle Roussel avait travaillé un moment à l'imprimerie, mais que vous n'aviez pu la garder. Une ombre de tristesse passa dans le regard de Tillier. C'est exact, et pour être franc, je m'en suis voulu d'avoir mis fin à son contrat. Voyez-vous, elle n'a pas eu de chance. Père et mère tôt disparus, la famille tant du côté paternel dans l'Oise, je crois, que maternelle en Angleterre, perdue de vue. Elle n'avait que sa sœur à qui se raccrocher. Rebecca l'a prise avec elle. Vous comprendrez que, quand j'épousais celle-ci, j'ai eu à cœur moi aussi d'aider cette pauvre fille. La Villa Louise est grande. Je pouvais l'héberger sans problème, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé aussi de lui donner un travail stable en l'embauchant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il se rejeta dans son fauteuil en faisant un geste évasif du bras. Vous vous doutez bien que, dans toute entreprise, il existe des jalousies et entre secrétaires, des ragots, des clans. Celle-ci n'échappe pas à la règle. Au bout de quelques semaines, mademoiselle Lecœur m'a confié sur un ton pincé qu'elle faisait des erreurs et qu'elle donnait le mauvais exemple par ses retards. J'ai résisté un moment. J'ai dit qu'il fallait qu'elle s'habitue. Elle est revenue à la charge, vous l'avez vu. Elle est efficace, mais c'est un dragon femelle. Mona ne put s'empêcher de sourire en repensant à mademoiselle Lecœur. Si elle entendait cela, elle tomberait raide morte. Tilly poursuivit. Finalement, j'ai convoqué Barbara. Pendant mon sermon, elle m'a écouté silencieusement, puis elle m'a juré les larmes aux yeux qu'elle faisait de son mieux, qu'elle s'appliquerait davantage. Mon rôle me dégoûtait, j'en étais malade. Cela a été mieux pendant une semaine, puis les griefs ont repris. Mademoiselle Lecœur m'a fait carrément une scène. Il semblait encore scandalisé. Mona resta impassible, mais elle n'avait aucun mal à imaginer le tableau. Elle a mis en avant l'image dynamique de l'entreprise, la justice entre tous les employés, la jurisprudence dangereuse que cette situation créait, enfin, tous les grands mots. Il eut un ricanement. Il ne regardait pas Mona, mais un coin de son bureau. Au bout du compte, par lassitude ou par lâcheté, j'ai cédé. On a résilié son contrat à l'amiable. Du reste, elle n'a fait aucune difficulté, n'a pas cherché à s'accrocher ou à nous créer des ennuis. Elle était triste, mais résignée. C'est pour cela que j'étais si mal à l'aise. Il releva les yeux vers Mona. Croyez-moi ou pas, je l'ai regretté, et je le regrette encore plus aujourd'hui, vu les circonstances. Il restait à Mona un dernier point à régler. Monsieur Tillier, j'espère que vous ne prendrez pas ombrage à cette question. Je suis obligé de la poser à chacun. Où étiez-vous quand mademoiselle Fougaille a crié? Et il eut un sourire lasse. Ne vous excusez pas, vous faites votre métier. Eh bien, un peu avant, j'étais parvenu à me libérer de mes invités, et j'étais allé voir mon épouse qui, plus tôt, avait été victime d'une insolation. Je l'ai trouvée dans sa chambre, assoupie sur son lit, sous la garde de ma sœur aînée. Celle-ci m'a assuré que ce n'était pas grave. Je profitais alors de ce que je me trouvais à l'étage pour me rafraîchir dans la salle de bain. Il faisait si chaud. C'est là que j'ai entendu les cris de mademoiselle Fougaille. Je suis redescendu aussitôt. Donc, pensa Mona en le remerciant de lui avoir consacré un temps précieux, il était dans la maison et personne ne peut confirmer son alibi. Sur le trottoir, on avait l'impression d'une fournaise, surtout après l'air conditionné des bureaux. Les deux policiers s'apprêtaient à monter dans leur voiture, une Mégane banalisée, quand ils aperçurent une inscription en grosses lettres, tracée hâtivement du doigt dans la poussière de la vitre avant. Flic égale pourri, femme flic égale super pourri. Mona regarda autour d'elle. Rien, sinon 20 mètres plus loin, un bistrot qui devait servir de deuxième cantine au personnel de l'imprimerie. Quelques tables surmontées d'un parasol étaient sorties sur le trottoir. La seule occupée l'était par 3 hommes assez âgés, en bleu de travail, qui, tout en sirotant un liquide jaune, fixaient les deux policiers d'un œil goguenard. Mona savait pertinemment qu'ils n'attendaient qu'une chose, qu'elles viennent les interroger. Ils n'iraient en jouant les indignés, et le spectacle serait complet pour leurs collègues moins courageux, qu'elle devinait derrière les vitres du café. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir. Sans paraître remarquer l'inscription, elle s'engouffra dans l'auto, et lorsqu'elle passa devant les 3 hommes, leur fit signe de la main tout en leur renvoyant un baiser outrageusement aguicheur.